Vous écoutez C'est notre argent avec Jeffrey Subrani et François Gagnon au réseau Cogeco.
Nous sommes de retour, 11h35, on parle des impôts, là, ça s'en vient. François,
oui.
Sur les textos, là, tu veux faire une précision.
Oui, tout à fait. Il y a deux questions. La première, pourquoi vous avez mentionné, c'est François qui nous écrit, là, un autre François, tiens, salut. pourquoi vous avez mentionné que le formulaire pour le CIPH, donc le crédit d'impôt pour personnes handicapées, doit être également envoyé au provincial? N'est-ce pas un crédit fédéral? Non seulement c'est un crédit fédéral, 8576 de déduction au fédéral, mais c'est également un crédit au Québec de 3449 $. Donc, ça vaut la peine. Et ces crédits-là, si vous êtes en cours, et que vous n'en avez pas besoin, est transférable au conjoint. Donc, c'est extrêmement important d'envoyer les deux. Parce que j'ai vu souvent de fois un crédit qui était refusé au provincial. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le formulaire eux-mêmes. Alors, c'est extrêmement important de le faire. L'autre question. Moi, j'aime ça, ce genre d'émission-là, pour déboulonner les mythes, là. Il y en a un mythe qui circule, puis je sais pas pourquoi. J'ai remarqué que les déductions pour médicaments, c'est inscrit que les pilules anticonceptionnelles ne peuvent être déduites. Non, c'est déductible. Parce que toutes les prescriptions sous ordonnance sont dans 99,99999% admissibles pour une déduction pour les frais de médicaments.
Donc, non seulement quelqu'un a soit une assurance privée ou une assurance publique, le fameux 600 ou 700 $ qu'on paye là, pour l'assurance du Québec.
Oui.
Donc, tu payes un peu moins parce que, bon, tu as une prime, etc. Mais après ça, ben au bout du compte, tu vas chercher des déductions et c'est important de le faire.
Oui, très important. Et pour les personnes qui sont à faible salaire, il y a des crédits d'impôt supplémentaires remboursables et au fédéral et au Québec pour frais de médicaments. Non seulement vous avez une déduction pour les frais de médicaments pour abaisser votre taux d'impôt, mais vous aurez droit également à un crédit d'impôt supplémentaire qui, lui, est remboursable. C'est-à-dire que si vous n'avez pas aucun impôt à payer, on va vous rembourser une portion de ces médicaments-là que vous aurez payé au cours de l'année. Mais ça, c'est des très faibles revenus, bien entendu.
Parfait. Alors, on continue au téléphone. Vous êtes nombreux. Merci d'être là. Hélène, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, c'est à propos des acomptes provisionnels.
Oui.
OK. J'ai vendu un chalet et mon logiciel, c'est sûr, me signale que j'ai des acomptes provisionnels à payer. Mais l'année prochaine, c'est sûr que je reviens à mon état normal et que j'ai jamais d'acompte provisionnel à payer. Alors, est-ce que je vais m'y soumettre?
Pas nécessairement. Là. Si vous dites que au cours de l'année 2021, vous revenez à la normale, vous allez payer votre gain de capital, là, comme normalement, vous devez le payer là, au cours de l'année 2020, mais pour 2021, vous revenez à la normale, donc vous n'aurez pas nécessairement d'acompte provisionnel à payer.
Alors, j'ai pas à remplir cette obligation.
Non. Ça, attendez que le gouvernement vous envoie une lettre. Là. C'est pas le logiciel qui fait la loi. Là. C'est une indication que le logiciel vous donne que vous auriez peut-être à payer des acomptes provisionnels. Mais c'est pas une obligation de payer des acomptes provisionnels si vous n'en avez pas besoin. Par contre, si vous prévoyez avoir des revenus supplémentaires au cours de l'année 2021 et qu'on vous demande des acomptes provisionnels et que vous ne les payez pas, et que vous devez des sous à la fin de l'année, malheureusement, il y aura des pénalités qui vont s'appliquer. Mais dans votre cas, je pense pas que ce soit ça. Là.
Parfait. Je vous remercie.
C'est un plaisir.
Merci, Hélène. Adeline, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Donc, moi, j'ai une question par rapport aux personnes à charge, parce que j'ai mon neveu qui est avec moi étudiant étranger. Mm-hmm. Et je voulais savoir si j'étais éligible pour une déduction pour personne à charge.
Non, du tout. Il faut que ce soit votre enfant. Puis pour les personnes de 18 ans et plus, il faut qu'il soit, oui, effectivement, aux études, mais il faut que ce soit votre enfant. Et d'autre part, pour le prendre à charge, il aurait fallu qu'il soit handicapé. Donc, malheureusement, dans votre cas, il n'y a pas de déduction pour vous.
OK, merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Nathalie, bonjour.
Bien?
Oui.
Oui. Moi, j'ai une question. C'est par rapport à mon fils qui travaille dans le domaine de l'activité physique. C'est sûr que 2020 a été particulier, mais il y a des T4 réguliers parce qu'il travaille dans un centre d'activité physique. Puis il y a d'autres entreprises qui paient des fois directement en chèque, mais sans émettre, parce qu'il y a un petit volet peut-être à son compte. Fait qu'il lui donne des chèques. Il y a eu 6 000 $ là-dessus. Puis il n'y a pas eu de T4A par rapport à ça. Est-ce qu'on peut inciter l'entreprise à produire des T4A ou c'est correct de déposer?
Ben, si vous les déclarez, il n'y a pas de problème, là. Ça, il n'y a aucun trouble à le déclarer soi-même, là. Sauf que de plus en plus, les gouvernements commencent à exiger des entrepreneurs qui utilisent justement des contractuels à émettre des T4A, justement pour autres revenus ou pour revenus de commission, ou peu importe, là. Mais c'est pas pratique courante encore pour tout le monde, là. Mmh. Alors, s'il a des revenus, je l'inciterais fortement à les déclarer, oui, effectivement.
Puis là, présentement, est-ce que s'il n'y a pas de T4A, est-ce qu'on met ça dans la case autres revenus? Parce que moi, mon
non, ça va être revenu. Non, ça va être revenu d'entreprise.
OK, OK. Parce que mon
alors, donc, vous devez donc remplir les formulaires nécessaires dans revenus d'entreprise. Je vais surprendre mon jeune collègue, c'est le T2125, hein, dans votre déclaration de revenus. Oui. Et là, il pourra mettre certaines dépenses également à l'intérieur de ça, mais allez-y avec parcimonie, effectivement. Okay, puis, vous avez tout compris.
Ouais. Puis le but de ça, c'est que tu sais, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça déclarer, mais c'est parce qu'à un moment donné, il va vouloir s'acheter une maison. Fait que tu sais, si ces revenus-là deviennent de plus en plus importants puis ils ne les déclarent pas, ben ça peut jouer, ça peut être un couteau à deux tranchants.
Effectivement, puis ça va lui permettre également d'augmenter aussi sa cotisation REER, puis d'être capable d'augmenter également sa régie des rentes du Québec, puis etc., etc. Il y a plein des choses là, qui sont prises en ligne de compte là-dedans. Là.
Ça, c'était ma deuxième question. Fait que là, sur le évidemment, c'est le montant qu'il dépose. Il n'y a pas payé de RRQ, il n'y a pas payé de chômage. Est-ce que ça va se comptabiliser?
Oui, la régie des s'il est obligé de payer de la régie des rentes, il devra payer sa portion et la portion de l'employeur. Donc, c'est le double. Okay. Mais sur 6 000 $ moi, je m'en ferai pas trop. Ça ne coûtera pas trop cher.
Fait que là, vous me dites que s'il met ça dans un revenu d'entreprise, là, tout va se comptabiliser.
Tout va se comptabiliser. Okay. Le logiciel est fait pour ça.
Excellent, je vous remercie beaucoup. Bonne journée.
Ça fait plaisir. Au revoir.
Merci. Stéphane, bonjour.
Allô?
On vous écoute.
Bonjour.
Oui, bonjour. Écoutez, excellente émission. Ça fait un an que je vous écoute. Puis j'ai tellement appris de choses avec vous. Moi, j'ai eu la PCU l'année dernière. J'ai eu en fait 5500 de PCU. Mais j'ai été rappelé par mon employeur éventuellement. Ils m'ont remboursé, je me souviens pas c'était quoi le programme, le 847 par semaine.
Ah, OK. La subvention salariale d'urgence.
C'est ça. Fait que moi, j'ai pris ce montant-là, je l'ai mis dans un CELI, puis avant la fin de l'année, j'ai remboursé la PCU, mais je me souviens pas si c'était 5 000 ou 5 500, mais j'ai remboursé 5 000 $.
OK.
Là, j'ai eu le T4 du gouvernement, puis il y a eu une erreur sur le T4. Ça dit qu'ils m'ont donné 5 500 et j'ai remboursé 2 000. Fait que là, j'ai appelé le gouvernement. On m'a dit, oui, effectivement, je vois ici que le 25 novembre, vous avez payé. Ils vont vous envoyer un T4 de révision.
Oui.
Mais là, je le reçois pas du tout. Je veux faire mes impôts. Moi, tout est prêt. Il manque juste ça. Est-ce que je peux... comme prendre mon T4 là, que j'ai déjà, puis changer le montant de, mettons, 2 000.
Ah, c'est jouer avec le feu, là. Moi, j'attendrai une couple de semaines, là. On n'est pas pressé, là, encore. On a jusqu'au 30 avril pour faire cette déclaration de revenus. Attendez une couple de semaines. Est-ce que vous avez accès à mon dossier à Revenu Canada?
Oui.
Allez sur mon dossier de Revenu Canada, regardez si justement le T4A a été corrigé. S'il est corrigé...
J'allais voir la semaine dernière, puis il était toujours pas corrigé.
Il était toujours pas corrigé, mais attendez qu'il soit corrigé, là, parce que sans ça, là, ça va allumer des cloches à l'autre bout, là, puis ça marchera pas, là. Attendez d'avoir votre document. Attendez une couple de semaines avant de faire quoi que ce soit, là. Je sais que c'est plate, là, mais attendez. Très bien.
C'est bien beau. Merci beaucoup.
Au revoir.
Bye-bye.
Salut, Dino. Bonjour, Dino.
Oui, bonjour. Merci pour votre émission. Oui, donc j'ai une question. Moi, en ce moment, je suis un étudiant.
Oui.
Donc, j'ai reçu la PCE l'année passée. Puis, j'ai fait faillite le 30 décembre.
Oui.
Le 30 décembre, oui. 30 décembre 2020, j'ai fait faillite. Donc, c'est pour une journée. Donc, cette année, le syndic, il m'a dit, moi, je fais le post-faillite. Le pré-faillite, et vous faites le pré-faillite. Mais là, moi, lui, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris le T4 du gouvernement, de la PCE, parce que c'est ça ce que j'ai pas travaillé. Et bon là, moi j'ai les frais scolarité pour parce que je suis étudiant et les frais de médicaments aussi.
OK, oui. Mettez-les dans votre déclaration de revenus. Mais vous n'oubliez pas que vos retours d'impôts sont saisissables. Hein?
Pardon?
N'oubliez pas que les retours d'impôts là sont saisissables.
OK, oui, ça je le sais. Ça je le savais. Mm-hmm. Donc parce que lui, le syndic, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit vos les frais de scolarité et les frais de médicaments mêlés avec votre femme. Ça, c'est comme est-ce que je les mets avec
Vous pouvez transférer, oui, effectivement, vos frais de scolarité là, pour en bénéficier, là, pour pas que votre déclaration de revenus vous faites saisir vos parce que votre femme se fera pas saisir son retour d'impôt. Alors oui, effectivement. Si vous êtes capable de tout mettre ça du côté de votre épouse, mettez-le tout du côté de votre épouse. Alors, à ce moment-là, tous les crédits d'impôt vont en bénéficier, malgré que c'est moins payant. Là, mais faites-le. Oui, effectivement, c'est une excellente suggestion.
Maintenant, François, ici, Jocelyne, je suis aidante naturelle pour ma mère qui est handicapée, qui a un faible revenu de moins de 20 000 $. Quelles sont les déductions auxquelles j'aurais droit, tant au fédéral qu'au provincial?
Alors, donc, au fédéral, il y a bien sûr il y a de l'aide et il y a un crédit d'impôt pour aider en naturel. Et ça, c'est modulé en fonction des revenus de la personne. À 20 000 $, il restera pas grand-chose. Par contre, au Québec, vous pouvez faire la demande pour aidant naturel, qui est l'annexe H. Hein? Alors donc, dans cette annexe-là, vous la remplissez et vous aurez droit donc à un crédit d'impôt qui est remboursable, celui-là. Du fédéral n'est pas remboursable, ça fait que diminuer les impôts à payer. Par contre, au Québec, c'est remboursable. Ça vaut extrêmement la peine, surtout si elle est bénéficiaire du crédit d'impôt pour personnes handicapées. Là, ça vaut vraiment la peine.
Parfait. On va revenir dans un instant. On fait une clinique d'impôts ce matin, François. Et pour nous joindre, 514-790-9850, c'est 1-866 sans frais.